La filtration solaire reste indispensable pour des raisons de santé publique. On le reverra, mais dans certains pays, les filtres sont considérés comme des médicaments, puisque préviennent de l'apparition de dommages irréversibles comme les cancers de la peau. Donc oui, il faut être attentif à ces controverses, mais en même temps, voilà, considérer que c'est des produits importants pour la santé.
Bonjour, je suis Chantal Soutarçon. Bienvenue sur Beauty Toaster, le podcast dédié à la cosmétique en mouvement. Aujourd'hui, je reçois Anne Rutigliano, directrice marketing et stratégie innovation, et Sophie Tripitelli, directrice scientifique. Toutes deux exercent leur métier chez Anjac Health and Beauty, le groupe qui conçoit et formule les cosmétiques d'un grand nombre de marques que vous connaissez et utilisez quotidiennement. Ensemble, on a décidé d'approfondir un sujet brûlant dont on a déjà parlé sur Beauty Toaster, les produits solaires. Et on s'attarde plus particulièrement sur leur formulation dans laquelle Anjac Health and Beauty a développé une certaine expertise. Face aux enjeux écologiques et sanitaires, face aux controverses et aux suspicions qui agitent régulièrement ce segment de la cosméto, le groupe Anjac Health and Beauty a décidé de jouer la carte de l'innovation. Allez, à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster. Bonjour Anne Rutigliano.
Bonjour.
Bonjour Sophie Tripitelli.
Bonjour.
Pourriez-vous nous présenter le groupe Anjac ?
Alors, le groupe Anjac est une entreprise familiale française qui crée, développe et fabrique des produits et des solutions pour les marques de beauté, le bien-être et les laboratoires pharmaceutiques. Donc, nous sommes plus de 3000 personnes, dont plus de 150 R&D, experts. Et puis, le groupe accueille aussi, depuis quelques temps maintenant, une direction scientifique, un comité scientifique qui travaille sur les projets d'innovation. Le groupe Anjac, ce sont aussi 22 sites R&D et de fabrication.
Dans le monde ou
Alors, dans le monde, effectivement, nous avons une implantation. 17 sites sont en France, 2 en Espagne, un en Californie et 2 au Canada, ce D'accord. qui nous permet d'avoir une implantation internationale. Et par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, le soin de la peau et la protection solaire, c'est à peu près un quart de notre activité, donc ça représente vraiment un secteur phare pour nous. Et aujourd'hui, plusieurs sociétés d'ailleurs du groupe travaillent ces sujets avec des réponses complémentaires.
Ok. Et alors donc, comme vous le disiez, parmi vos nombreuses expertises, il y a la formulation de produits solaires. Justement, quels sont les filtres solaires dont on dispose actuellement pour fabriquer des protections efficaces ?
Alors, pour rappel, les filtres solaires sont des ingrédients aujourd'hui indispensables pour protéger la peau des effets nocifs du soleil et qui préviennent les risques de cancer, notamment le mélanome de la peau, ainsi que des coups de soleil, mais aussi du vieillissement prématuré ou encore l'apparition de taches. Donc, les filtres absorbent ces rayons UVA et UVB. Tandis que les filtres minéraux réfléchissent principalement les UVB. Donc aujourd'hui, on a deux types de filtres à notre disposition, des filtres organiques et des filtres minéraux. Chacun de ces filtres assure une protection qui lui est propre. C'est pour ça que quand on développe une formule, on utilise un ensemble de filtres qui nous permettent d'avoir une protection la plus large possible. Donc ce sont des associations qui nous garantissent cette protection. Anjac est une société qui ne fabrique pas de filtres solaires, mais qui développe des formules en contenant. Et nous avons un vrai savoir-faire pour répondre aux différentes exigences de nos clients, et notamment de développer de belles formules performantes, aussi bien en utilisant des filtres 100% minéraux, 100% organiques, ou ce qu'on appelle des formules hybrides, qui contiennent une partie de filtres minéraux et organiques, pour avoir cette protection UVA et UVB dont on reparlera.
D'accord. Alors, une modification du règlement cosmétique paru en juillet 2022 dans le journal officiel de la Commission européenne indique que l'utilisation de certains filtres, aux concentrations pourtant autorisées, n'est pas sûre pour les consommateurs. On parle notamment de la benzophénone 3 et de l'octocrylène, qui sont suspectés d'être des perturbateurs endocriniens. Et d'autres sont aussi sur la sellette. Ça devient de plus en plus compliqué de formuler des solaires quand même.
Alors oui, effectivement, on parle beaucoup de ces controverses, notamment auprès de nos consommateurs et dans la presse. Certains filtres sont effectivement accusés de provoquer des allergies, notamment. Hein. D'autres sont pointés du doigt pour potentiellement présenter un risque de perturbation endocrinienne. C'est effectivement l'exemple de l'octocrylène qui a été pour autant réévalué récemment par le SCCS, hein, qui régule et qui valide les dossiers d'enregistrement de ces filtres et qui a conclu qu'il n'y avait pas de risque. Mais le sujet revient régulièrement.
Ouais, c'est ça.
Et l'ANSES a demandé récemment à revoir le dossier, donc ce qui crée une vraie confusion dans l'esprit des consommateurs. Pour notre part, on suit de manière très, très... précautionneuse, toutes ces évolutions de réglementation et ces nouvelles informations que l'on intègre. Et c'est pour cette raison que, par principe de précaution, nous n'utilisons plus pour le moment d'octocrylène dans nos formules.
D'accord.
En attendant d'avoir une réponse la plus éclairée et non équivoque sur le sujet.
Okay.
Et nous assurons une veille pour l'ensemble des filtres que nous utilisons, ainsi que nos clients qui l'assurent également.
Voilà,
qui ont des filtres blacklistés dans leur formule. Alors, une autre controverse concerne les filtres minéraux. Là, c'est un autre sujet. C'est le sujet des nanomatériaux.
Oui.
Puisque certains, comme le TiO2, peuvent être sous forme nano ou non nano, d'ailleurs. Et pareil, nous suivons la réglementation et surtout les nouvelles données en ce qui concerne les nanomatériaux. On sait aujourd'hui que c'est un risque qui est avéré par inhalation.
Ouais.
L'application sur la peau ne présentant pas de risque, notamment quand ces filtres sont en formule. Là aussi, on essaie d'utiliser des filtres plutôt non nano pour éviter un étiquetage sur le pack. C'est principalement ça que nos clients essaient d'éviter. Mais pour des raisons de performance, parfois, certains filtres nano sont toujours utilisés par nos clients, mais ne présentent aucun risque, encore une fois. Et nous suivons ça de très très près. Le dernier sujet de controverse.
Il y en a beaucoup.
Il y en a pas mal. Et je ne sais pas scientifiquement pourquoi plus sur ces sujets-là. On parle quand même de santé publique quand on se protège des UV que sur d'autres sujets. Mais c'est un fait. Donc ces filtres sont aussi parfois accusés d'avoir un impact sur l'environnement et notamment dans les océans et sur le blanchiment des coraux. Donc, pour la petite anecdote, c'était le sujet de bac à l'oral de mon fils. Donc, on a pas mal planché dessus et on s'est pas mal documenté. Très rapidement, le blanchiment des coraux, c'est la disparition d'un organisme symbiotique, d'une algue qui vit à la surface de ce corail et qui lui donne sa couleur. Aujourd'hui, on a montré qu'avec le réchauffement des eaux, des océans, l'acidification du fait de du CO2 qui est intégré de plus en plus, vu que l'eau se réchauffe, le CO2 se dissout plus facilement dans les océans, ces algues disparaissent, meurent.
Ouais.
Donc le corail blanchit, et comme l'effet symbiotique ne se fait plus, il meurt à son tour.
D'accord.
Donc il y a beaucoup d'études qui ont été lancées notamment par des organismes indépendants, le Centre océanographique de Monaco, qui est un centre reconnu dans le domaine.
Qui est en pointe.
Il y a eu des expositions comme Tara qui ont essayé de démontrer et qui ont démontré qu'à la concentration où on retrouve les filtres dans les océans, on n'a pas d'effet là aussi sur le blanchiment de ces coraux.
D'accord.
Mais on reste toujours attentif à ce qui se passe. Il y a des études... un laboratoire qui a été conduit, là aussi, qui corrobore ces résultats. Il faudrait des concentrations beaucoup, beaucoup plus élevées pour démontrer quelque chose.
D'accord.
Comme on le disait tout à l'heure, il est important quand même de garder à l'esprit que la filtration solaire reste indispensable pour des raisons de santé publique. On le reverra, mais dans certains pays, les filtres sont considérés comme des médicaments, puisque préviennent de l'apparition de dommages irréversibles comme les cancers de la peau. Donc oui, il faut être attentif à ces controverses, mais en même temps, considérer que c'est des produits importants pour la santé.
Et en effet, se protéger des rayons UV reste indispensable et même vital, en particulier lorsque l'on s'expose l'été. D'ailleurs, pourriez-vous nous rappeler la différence entre UVA et UVB dans le mode d'action ?
Pour rappel, les UVB représentent 5% du rayonnement UV. C'est-à-dire que le reste étant des UVA. L'UVB est une onde qui pénètre très peu dans la peau, donc qui reste sur les couches superficielles de la peau. Ce sont les rayonnements que l'on reçoit le plus l'été, hein, ouais, quand on est à la plage, et qui provoquent brûlures, coups de soleil, ouais, certains cancers de la peau aussi, ouais, également. Mm-hmm. Plus important encore pour moi, les UVA que l'on reçoit tout au long de l'année, mm, par un temps clair ou nuageux, ils sont toujours là. C'est 95% du rayonnement UV. Et ces UVA pénètrent beaucoup plus profondément à l'intérieur de la peau jusqu'au derme et à l'hypoderme et peuvent provoquer des dommages irréversibles de la peau, notamment cancer, mélanome, mmh, mais aussi sont responsables des effets du vieillissement, dont on reparlera, je crois, tout à l'heure.
Et alors, quels sont les signes qui montrent justement que la peau a été abîmée par les UVA ? Vous l'avez un peu dit.
Alors, c'est vrai que les UVB, on voit tout de suite, oui, échauffement, voilà, coup de soleil. Voilà, c'est assez simple. Les UVA, c'est beaucoup plus pernicieux, parce qu'on ne le voit pas immédiatement. Ce sont vraiment eux qui sont responsables de l'apparition des 70% des signes de l'âge, comme la perte d'élasticité, les rides, les taches, au cours du temps. Donc, c'est pas un effet immédiat, mais c'est un effet à long terme. Et c'est pour ça que les UVA, c'est plutôt un axe de protection. Essayer d'être dans un... Comment je vais dire ça ?
La prévention.
Dans une logique préventive. Voilà. Donc, il faut se protéger très tôt. D'ailleurs, les pays asiatiques, la Chine, les femmes se protègent des UV très, très jeunes. Elles ont compris que c'était quand même la stratégie la plus payante pour éviter l'apparition des signes de l'âge et notamment des taches.
Oui, alors le gros sujet du moment, c'est cette utilisation quotidienne des SPF. Est-ce que les formulations solaires classiques avec une protection anti-UVA correspondant à un tiers du SPF total sont suffisantes pour lutter contre les méfaits des UVA toute l'année ?
Alors, c'est une excellente question et beaucoup de travaux sont en cours actuellement pour bien comprendre la meilleure façon de se protéger. Toujours cette confusion entre produits solaires et produits de photoprotection quotidienne. J'ai vu récemment pas mal de papiers de dermatologues, de congrès dermatologues qui travaillent sur ce sujet. Effectivement, ce qu'on entend, c'est que le ratio UVA-UVB qui est dans une crème solaire plage et de 3 UVB pour un UVA. Aujourd'hui, ce ratio serait plutôt à ramener 50-50, par exemple, pour une photoprotection quotidienne, donc booster les UVA par rapport aux UVB dans une crème quotidienne par rapport à une crème solaire.
Vous avez mis au point une innovation technologique. Comment fonctionne-t-elle ?
Alors, effectivement, nous avons mis au point une technologie propriétaire. Sur lequel nous travaillons depuis déjà 2 ans, permettant d'améliorer la protection UV en utilisant moins de filtres. Nous avons des résultats extrêmement prometteurs et intéressants avec cette technologie, notamment sur des formules organiques, minérales ou hybrides. Non seulement nous atteignons des niveaux de SPF parfois doublés par rapport à une formule ne contenant pas cette technologie, sur les UVB, donc sur le SPF, mais aussi, et c'est tout l'intérêt également de cette innovation, sur la protection UVA, okay, qui double dans certaines formules. Donc l'ensemble de ces travaux ont été objectivés par des méthodes qui nous permettent de mesurer le SPF pour les UVB dans des méthodes vivo. Aujourd'hui, ce sont les seules méthodes reconnues.
Ouais.
Vous savez peut-être qu'il y a eu pas mal de discussions aussi et de controverses sur les résultats SPF. Donc aujourd'hui, on a des méthodes vivo qui sont validées, reconnues. Nous travaillons avec des CRO, donc des centres d'objectivation qui nous permettent d'obtenir des résultats fiables. Donc en ce qui concerne les UVA, on mesure ce qu'on appelle la PPD, qui est la Persistent Pigment Darkening. Donc c'est vraiment une mesure colorimétrique sur la peau. Et qui permet de démontrer vitro, cette fois-ci, sur des mesures vitro, le niveau de protection à ces UVA. Donc, que ce soit SPF ou PPD, avec la technologie développée par Anjac, nous avons vraiment un boost et nous doublons pratiquement le niveau de protection. Donc l'enjeu d'utiliser moins de filtres avec la même protection, voilà, semble atteinte et sera intéressante de développer.
Et vous arrivez à obtenir ces résultats tout en ayant une sensorialité, enfin, du produit qui convient aux consommateurs.
Alors l'enjeu aussi sur notamment nos formules filtres minéraux, 100% minéraux. Hein. On sait que quand on utilise 100% TiO2 par exemple, les formules sont très blanches. Donc c'est aussi un retour consommateur qui nous a poussé à travailler ces boosters de SPF. Et utilisant moins de filtres, on a des sensorialités qui sont fortement améliorées, que ce soit sur l'effet blanc mais aussi sur l'étalement. Nous pensons, et ce que l'on est en train de démontrer, c'est que cette technologie propriétaire améliore l'étalement de nos filtres et donc la protection.
Okay.
Pour compléter, et je pense que c'est intéressant aussi, nous travaillons de plus en plus également avec des CRO qui tentent de développer des méthodes alternatives aux mesures VIVO du SPF.
Ouais,
c'est un consortium aujourd'hui européen. Avec un certain nombre de laboratoires qui essaient de valider une méthode vitro, ce qui n'est pas évident hein, puisque la méthode vitro n'est pas reconnue. Mais nous pensons que les avancées aujourd'hui nous permettront d'avoir des méthodes vitro alternatives au vivo très rapidement.
Pour autant, on sait que le vieillissement est multifactoriel, ce n'est pas qu'une question d'UVA quand même.
Alors oui, c'est une excellente question aussi. Vous avez dû entendre parler beaucoup de ce qu'on appelle l'exposome.
Oui.
Donc l'exposome, c'est ce cocktail auquel on est exposé quotidiennement. Donc les UV, bien sûr, la pollution, d'autres agressions liées à nos modes de vie, le stress, l'alimentation. Et c'est l'ensemble de ces facteurs qui créent des déséquilibres et notamment qui créent des désordres cutanés comme des désordres liés au vieillissement, mais pas que. Acné... cernes, taches, boutons, etc. Donc cet exposome est vraiment un ensemble de facteurs environnementaux qui agissent en synergie. Et dans ces facteurs, on retrouve, quoi qu'il en soit, les UV.
Ouais.
C'est-à-dire que UV et pollution est un cocktail explosif. Donc je dirais que continuer à se protéger des UV, quoi qu'il en soit, même par rapport à l'exposome, permet quand même de limiter... ces effets cocktails et ces effets synergiques délétères sur la peau.
D'accord. Alors, Anne, on évoquait le fait que les réglementations évoluent selon les pays et que dans certains pays, les protections solaires sont considérées comme des médicaments ou à minima réglementées par l'administration des médicaments. Comment les marques et vous, vous gérez ces aspects ? Est-ce que c'est assez transparent pour les consommateurs ?
Alors effectivement, pour les consommateurs, ils ne savent pas tout ça. Et même un consommateur qui voyage et qui achète la même marque ou un produit solaire en France, aux États-Unis, il ne va pas savoir ce qui se passe. Mais effectivement, il y a une réglementation différente dans certains pays. Donc les États-Unis, le Japon, l'Australie considèrent les protections solaires comme des médicaments avec une réglementation particulière. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Donc pour nous, ça veut dire d'avoir des équipes réglementaires très pointues, toujours en veille, qui regarde les évolutions, capable de comprendre les différences, les niveaux d'exigence également particuliers. Et puis, surtout, côté développement de la formule, en fait, il va être nécessaire d'avoir un laboratoire R&D certifié par un organisme pharmaceutique. Donc, par exemple, pour les États-Unis ou le Canada, on est sur des produits statuts OTC. Donc, il faut que le laboratoire R&D soit certifié par un organisme qui s'appelle la FDA. Oui. Qu'en termes de formulation, il respecte un certain référentiel, qu'il respecte certains filtres autorisés. Et donc ça apporte une contrainte, une expertise vraiment spécifique. Pour ce qui concerne la fabrication de ces mêmes produits, il faut que la zone de fabrication, les équipements, les process soient également certifiés par cette réglementation FDA, si je continue sur l'exemple de l'Amérique du Nord. Et ça, c'est très particulier. Ça vient, j'ai envie de dire... perturber ou en tout cas changer les habitudes de fabrication d'un produit cosmétique. Donc pour ce qui nous concerne, en fait, on a la chance d'avoir au sein du groupe deux sites qui sont certifiés OTC par la FDA, tant sur la partie développement R&D et les laboratoires de ces sites, que sur la partie fabrication. Et pour les marques que nous servons, effectivement, cela suppose pour une marque internationale de réfléchir à chaque fois comment répondre à ces différentes réglementations. Et on va se retrouver avec souvent deux produits pour ou trois produits pour répondre à une réglementation diverse en fonction des pays du monde.
D'accord. Donc ça veut dire, par exemple, pour une même marque, le même produit sera pas formulé de la même façon, n'aura peut-être pas les mêmes filtres s'il est produit pour le marché européen ou pour le marché américain.
Exactement. Okay. Cela aura un impact. Alors, il y a le sujet de l'efficacité, mais aussi la sensorialité des formules. Donc c'est une vraie contrainte pour les marques et pour nous laboratoires. Mais j'ai envie de dire le beau de l'histoire, c'est qu'on a la capacité de savoir répondre à cette complexité.
C'est ça. Et alors, dans quelle direction se dirige la recherche Anjac aujourd'hui sur ce sujet de la protection anti-UV?
Alors, de manière générale, le groupe Anjac investit fortement dans la recherche et l'innovation depuis un certain nombre d'années. C'est vrai que cela représente 5% de notre chiffre d'affaires, donc c'est assez conséquent chaque année. On est assez fiers d'exprimer cette différence parce que nos clients peuvent en bénéficier. Qu'ils aient ou non des ressources internes, c'est vrai qu'ils sont en attente d'innovation et de proactivité de notre part. Et ce qui est intéressant aussi de dire, c'est que notre industrie et de manière générale la filière, il y a une vraie ouverture qui s'est mise en place pour travailler autrement les sujets d'innovation. Et on voit que ce sujet de la protection solaire, qui est quand même compliqué, complexe, avec des gros enjeux de santé à la clé, nécessite de rassembler différentes compétences et expertises. Donc nous travaillons notamment avec des experts externes pour compléter les savoir-faire de nos équipes. Et donc sur le sujet de la protection UV, nous continuons de travailler la performance, la réduction de quantité de filtres, parce que forcément c'est le sujet de fond. Et l'innovation technologique propriétaire dont parlait Sophie est une vraie avancée et une vraie belle réponse à cela. Aussi les nouveaux formats, les nouveaux gestes pour les consommateurs qui vont avoir besoin de se protéger en tout lieu et à tout âge. Donc par exemple les sticks solaires, les formats, les textures plutôt de mousse qui rendent plus agréable une application de la protection solaire. Aussi, nous savons donc par rapport à la protection quotidienne que d'intégrer une protection anti-UV dans des produits de teint, de make-up, avec les bonnes précautions d'usage,
la bonne application,
etc. Et de bien éduquer aussi le consommateur sur ce que cela fait, ce que cela ne fait pas. Ne pas trop créer d'attente non plus. Donc ça, c'est aussi un axe d'innovation pour nous. Et puis, sur un sujet plus large et d'enjeux plus scientifiques, donc notre comité scientifique Anjac est également convaincu qu'il y a un lien fort entre la protection anti-UV et puis les peaux sensibilisées. Donc, comme par exemple après un traitement acné, après une chirurgie esthétique et différentes situations de ce type-là. Donc là, il y a des travaux en cours qui font appel notamment à l'expertise de nos équipes pharma et puis donc cette expertise en dermatologie qui est aussi très présente dans le groupe. La connaissance du microbiome également, ça, c'est un vrai sujet, un vaste sujet, Sophie. Et donc tout ça est mis à profit de travaux plus exploratoires à ce jour, qu'on viendra peut-être partager un jour avec
plaisir.
Vous, mais qui montre que il y a encore beaucoup de belles choses à travailler.
Super. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
C'est déjà terminé. Le temps passe si vite. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, pensez à nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur la plateforme d'écoute de votre choix. Et puis, parlez de Beauty Toaster à au moins deux personnes de votre entourage. Ça m'aiderait énormément. Enfin, n'oubliez pas, désormais, on se retrouve tous les vendredis, première heure. Alors, à la semaine prochaine !